connaissance de l'enfant comme cette connaissance de l'enfant à l'égard de sa mère, ou la connaissance d'un adulte à l'égard d'un autre qui connaît, qui l'aime, qui l'a choisi comme ami. Alors, à ce moment-là, cette connaissance met en lui-même un amour. Tout amour présuppose une connaissance. Tout amour spirituel présuppose une connaissance. Mais comprenons bien, la connaissance ne détermine pas mon amour. Alors ça, c'est capital de comprendre ça. La connaissance ne détermine pas mon amour. La connaissance conditionne mon amour. Mais mon amour est déterminé non pas par ma connaissance, mais par le bien connu. C'est le bien qui m'attire. Et c'est en ce sens-là que je peux dire qu'il y a dans tout amour spirituel un dépassement de la conscience. Je ne peux pas mesurer mon amour par la conscience que j'ai de mon amour. Et c'est pour ça que Descartes ne pouvait pas aimer spirituellement, parce que pour lui, la conscience claire est au-dessus de tout. C'est très curieux. Et ça arrive, des gens comme ça. Et c'est pour ça que l'homme a quelquefois tellement de peine d'aimer. Parce qu'il sait que l'amour est au-delà de la conscience qu'il a, du bien qu'il a dit. Donc, je reprends, pour que vous voyez bien ça, ça c'est très très important à saisir, parce que c'est là où on saisit ce qu'il y a de tout à fait original à l'amour, ce qu'il y a de tout à fait unique à l'amour, de comprendre que l'amour a une force, une véhémence, qui est au-delà de la connaissance. C'est en ce sens-là que l'amour enveloppe la connaissance. La connaissance est nécessaire, nécessaire comme condition, mais la connaissance ne détermine pas. Le jour où vous prenez la connaissance comme déterminant votre amour, vous n'aimez plus. C'est votre prudence qui l'emporte. Alors vous dites, mais vous restez un homme prudent. Est-ce qu'un homme prudent aime? Ce n'est pas en tant qu'il est prudent qu'il aime. En tant qu'il est prudent, il a réfléchi sur les moyens qui lui permettent d'atteindre la fin. Mais l'amour est antérieur à la prudence. Et la prudence est pour l'amour, et non pas l'amour pour la prudence. Et donc, l'homme prudent, il ne veut pas aller plus loin. Vous voyez, normalement, hein, peut-être que oui, peut-être que non, attention. Alors, à ce moment-là, hein, attention. Alors, si c'est attention, va avancer dans la mesure où il connaît. Il n'acceptera pas ce dépassement de l'amour à l'égard de quelque chose qui le dépasse. Le bien est toujours ce qui m'attire et ce qui me dépasse. Le bien me transcende toujours. Donc il me dépasse. Il y a toujours dans le bien quelque chose que je ne peux pas atteindre entièrement par la connaissance. Je ne connais le bien qu'en l'aimant, pas en le connaissant. C'est très curieux. Je connais le bien en l'aimant et non pas en le connaissant. C'est en aimant le bien que je découvre ce que c'est que le bien, que je découvre mon bien. Et ce n'est pas en le connaissant. Il faut la connaissance, mais il faut dépasser la connaissance. Il faut donc comprendre que cet amour spirituel qui est très fondamental en moi, qui est cet éveil, ce duvet de mon cœur au plan spirituel, me lie à ce bien spirituel et me permet d'être lié à ce bien spirituel. Je le découvre. Et c'est en aimant que je découvre le bien. C'est le bien qui m'attire et c'est en aimant que je découvre le bien. Et par cet amour à l'égard de ce bien, je suis lié à ce bien. Je suis lié à ce bien. Ce bien va me marquer. Et c'est vrai, ça me connaturalise à ce bien. Alors là, je retrouve la connaturalité au plan spirituel. Mais volontairement,
je veux aimer. Oui, je me laisse aller à cet amour. Je veux aimer. Alors, le très gros problème, c'est de savoir si ce premier amour spirituel est vie ou non. Ah, c'est très important. Oui, comme quand on voit ces choses-là, ces situations quelquefois très difficiles, parce que ça peut arriver, comme tu le dis. Un homme marié depuis déjà 20 ans, l'amour est un peu refroidi, parce qu'ils n'ont pas suffisamment été responsables de leur amour. Ils n'ont pas été suffisamment, ils n'ont pas grandi dans leur amour. Il y a eu des difficultés. Et puis ils ont dit, oui, alors ça, les gens ont mis l'un à côté de l'autre, très bien, c'est comme ça, c'est là. Il y a des enfants, il faut bien, très bien. Mais en fond, c'est beaucoup, plus beaucoup de confidence, alors c'est très bien, l'un se rattrape par les amis, et l'autre aussi. Alors, là, chacun ses amis, de temps en temps, c'est très bien. Puis tout d'un coup, ça va arriver. Parce que en nous, il y a un volcan. Et le volcan ne s'allume pas toujours à 18 ans, il s'allume quelquefois à 40 ans. Ça peut très bien arriver. Alors subitement, et puis quelquefois c'est latéral. Vous savez, c'est dans les volcans ne fusionnent pas toujours par le cratère. J'ai vu ça aux Aïeux, des éruptions là, de ce volcan il y a quelques années. Alors il y avait des gens qui surveillaient ce volcan, parce qu'on voyait qu'on savait très bien qu'il s'agit un petit peu. Alors, j'ai vu ça, c'est très amusant, parce qu'on voit le lieu où les gens surveillaient le cratère. Hein, surveillaient le cratère. Il n'y a pas trop de danger. Puis le volcan, tout d'un coup, a fusionné sur le côté. Alors, évidemment, les premiers qui ont été touchés, ce sont les surveillants. Ils étaient touchés, parce qu'ils étaient là tout près. Ils croyaient que ça, nécessairement que ça devait suivre la vie. Donc, tout devait sortir du cratère. C'est sorti sur le côté. C'est très significatif, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça dans la vie humaine. De temps en temps, si on n'est pas très attentif, tout d'un coup, un nouvel amour qui surgit. Une séduction. À 40 ans, à 45 ans, ou quelquefois plus tard, on peut être séduit à tous les âges. Vous savez bien, dans la Bible, on parle du vieillard qui est séduit par Suzanne. N'est-ce pas, c'est une artiste. Alors, on va très bien. Et ils étaient des juges. N'est-ce pas, mais ils n'étaient pas très sérieux. Alors, donc, il y a la passion, et la passion aidant, il y a subitement un nouvel amour spirituel. Un nouvel amour qui surgit. Est-ce que cet amour est toujours libre? La passion n'est pas libre. Je peux la terminer, la passion, si je suis suffisamment maître de moi. Mais la passion n'est pas libre, bien évidemment. C'est le cheval qui vous l'avez. Si vous aimez trop les passions, plus moyen. Plus personne ne les aimera. Donc la passion s'éveille, et puis il y a un premier amour spirituel, c'est vrai. Au fond, je n'ai jamais aimé dans ma vie. Alors ce qu'ils diront plus. Très vieux, c'est la déclaration capitale. J'ai jamais aimé encore, c'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Je croyais avoir aimé, non, je l'ai aimé. Vraiment, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et maintenant, je m'aperçois, alors je suis fidèle à cet amour. Donc on est plus fidèle à la promesse, et on veut être fidèle à cet amour. Ce qu'on a vu, c'est que chez certains prêtres qui ont quitté leur vocation, j'ai entendu ça, prêtres. Ah, vous êtes fidèle à l'amour. Oui, c'est tout à fait fidèle à l'amour. Il faut savoir si cet amour vous permet d'être fidèle. Parce que c'est ça qu'il faut. Hein. C'est savoir si au fond vous avez promis quelque chose, et soyez fidèle à votre promesse, à votre amour spirituel. Vous voyez, il y a un amour premier qui peut s'éveiller en nous. Je dis tout à fait qu'il peut s'éveiller en nous, dont on n'est pas libre. Mais on est libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Là, la très grosse différence. Je ne suis pas libre que le bien suscite en moi un amour. Parce que justement, l'amour est au-delà de la conscience, est au-delà de la connaissance. Ça peut très bien se faire, ça. C'est pas coupable. Je suis saisi par ça tout d'un coup. Mais je suis libre, alors,
de faire que cet amour spirituel, je le cultive ou non. Vous voyez, je suis l'auto-éducation. Je suis libre d'accepter cet amour, au contraire de dire non. Cet amour, c'est impossible. Je suis déjà pris par autre chose. Donc c'est impossible. Évidemment, je pourrais me demander, est-ce que cet amour nouveau peut peut-être se transformer en un amour d'amitié? Si je vois que c'est possible, c'est possible ça. On ne va pas nécessairement refuser un amour. Mais il faut voir si cet amour ne va pas être rival d'un autre amour. Et si cet amour devient rival d'un autre amour, il est mauvais. Parce qu'il m'empêche d'être fidèle à ce premier amour. Mais si cet amour n'est pas rival, et qu'il peut au contraire être comme un renouvellement de mon cœur. Mais la liberté vient après pour voir et constater si cet amour spirituel n'est pas en opposition vis-à-vis d'un autre amour. Mais cet amour spirituel, dans ce cas-là, dans son premier jaillissement, il est au-delà de la liberté. Il est spontané. Il y a quelque chose qui gêne de ma volonté. Bon, nous continuerons demain.
Passionnel et sensible, et puis la vie spirituelle. Alors, dans cette vie spirituelle, nous avons commencé hier de voir ce premier moment, cette première éclosion de ce que représente la volonté. Ce premier amour volontaire qui regarde un bien spirituel. Première éclosion de la volonté. En vous rappelant que nous avons beaucoup de peine à comprendre cela aujourd'hui, parce que depuis Descartes, et même avant Descartes, on pourrait dire qu'à partir du 14e siècle, c'est les théologiens qui ont toujours, d'une certaine manière, c'est très vrai, dans notre monde occidental, c'est les théologiens qui, de fait, ont les premiers oublié ce point de vue de la volonté, capacité d'aimer, avec Occam. Donc au XIVe siècle. Et Descartes reprendra cela. Alors, chez Descartes, c'est très explicite. La volonté est une capacité d'efficacité, d'efficience. Et l'amour n'est plus que l'amour passionnel. C'est au niveau de la passion. Et nous retrouvons la même position chez Freud. C'est très curieux. Alors que Freud et Descartes, sous l'aspect de la conscience, sont deux contraires, sous le point de vue de l'amour, ils ont la même position. Ça ne fait pas plaisir à dire ça aux Freudiens, mais il faut leur dire quand même. Il faut leur dire que c'est... Et c'est souvent comme ça, du reste, un petit procédé très simple au point de vue de l'analyse philosophique. Quand vous avez deux positions contraires, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose de commun. Hein, ce sont deux positions contraires. Descartes et Freud, deux positions contraires, eh bien, il y a quelque chose de commun, c'est que l'un et l'autre n'ont pas découvert ce que c'est que l'amour spirituel. L'un et l'autre ont ramené l'amour humain à l'amour passionnel. Ils n'ont vu que le produit de la passion. Alors, il faut dépasser cette position de Descartes et de Freud et de redécouvrir, par notre expérience, par notre expérience, et je ne vais pas te redécouvrir a priori, en dire c'est ça que les anciens disaient, donc c'est ça qui est vrai. Non, non, il s'agit de redécouvrir par notre expérience, et c'est ça que je voudrais que ce matin vous compreniez. Redécouvrir par votre expérience, par l'expérience de l'amour d'amitié. C'est l'expérience de l'amour d'amitié qui va nous permettre, au plan philosophique, de pouvoir répondre à Descartes et à Freud. Je crois que tant que nous n'avons pas fait cette expérience, nous ne pouvons pas. Et c'est important, parce que ça nous aide à comprendre l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des Freudiens, vis-à-vis des cartésiens, vis-à-vis des positivistes. C'est en recréant des liens d'amitié que nous pouvons arriver à les aider à convertir leur intelligence. Il faut d'abord convertir le cœur, vous savez, c'est la première chose. Et en convertissant leur cœur, on les aide à redécouvrir ce qu'il y a de plus profond dans l'esprit. Parce que si vous attaquez directement les idéologies, ça ne va pas. Parce que par leur dialectique, ils répondront indéfiniment. Et alors vous les enferrez encore plus. Alors, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez au contraire arriver à essayer de leur faire comprendre que leur idéologie demande d'être dépassée par un amour spirituel. Vous voyez, essayez de saisir ça, parce que c'est intéressant, avant de creuser un peu le problème, de comprendre un tout petit peu les niveaux. Et alors, quand on voit ces niveaux, on saisit mieux ce que veut dire, justement, ce point de vue des idéologies. Donc, la vie de l'esprit, c'est ça que nous allons essayer de scruter. Nous allons essayer de scruter cette vie de l'esprit. Cette vie de l'esprit, dans son sommet. Je mets ici les résultats, puis nous essaierons de voir ensuite comment nous pouvons y aboutir. Dans son sommet, c'est cette volonté, capacité d'amour. Capacité d'aimer. Cette volonté, capacité d'aimer implique une intelligence au service de l'amour. Donc, une intelligence dans ce qu'elle a de plus profond, la capacité de l'intelligence de juger, de discerner le bien et le mal, et d'atteindre le bien personnel. L'intelligence, dans ce qu'elle a de plus fin, c'est une intelligence qui a une perspicacité d'atteindre la personne. La volonté, en un second moment, cette volonté d'efficacité, il ne faut pas la nier, il existe, c'est bien évident. La volonté demande l'efficience, l'efficacité. Donc, le second moment, c'est comme toujours, il s'agit de bien découvrir l'ordre qui existe dans l'esprit. Il y a un ordre. Le premier moment de la volonté, c'est la capacité d'aimer. Mais cette capacité d'aimer demande l'efficacité, c'est bien évident. S'il n'y a aucune efficacité, vous comprenez, ça ne va pas. L'intelligence se fortifie dans l'efficacité. C'est le fortitaire. Le fortitaire de l'intelligence, c'est justement c'est la conséquence de la capacité d'aimer. Et pour l'efficacité, l'intelligence est présente comme une intelligence qui raisonne. C'est la raison. Parce que l'efficacité réclame une méthode, et ainsi de suite. Et la méthode, c'est la raison. C'est l'intelligence logique. L'intelligence qui raisonne, c'est l'intelligence logique. Tandis que l'intelligence, que nous verrons demain, contemplative, c'est l'intelligence qui a l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, si vous voulez, prenez dans Pascal. L'esprit de finesse, c'est l'intelligence au service de l'amour. L'esprit de géométrie, c'est la raison. C'est la raison qui résonne. Bien, vous avez de fait dans l'esprit ces deux étages qu'il faut toujours bien saisir. L'aspect du mode particulier de notre esprit humain qui est un esprit qui résonne. Et l'aspect plus profond de l'esprit, qui est un esprit qui pénètre. Il y a une pénétration d'intelligence. Et puis il y a l'intelligence qui résonne. Ce n'est pas la même chose. L'intelligence qui, si vous voulez, vous diriez l'intelligence intuitive et l'intelligence résonante. Toute intuition demande d'être justifiée. C'est bien évident, je ne peux pas rester uniquement dans les intuitions. Mais l'intuition me permet d'avancer plus loin. Une intelligence pénétrante me permet d'aller plus loin. Une intelligence qui raisonne, c'est l'intelligence qui met les choses en place. Très très bien. Mais s'il n'y a pas la force d'intuition, vous n'avancez pas. La capacité d'une intelligence est premièrement une capacité de pénétration. que saint Thomas aime de dire « intus legere », lire en profondeur. L'intelligence permet une lecture en profondeur. Tandis que si on n'est pas très intelligent, on confond ce qui est nécessaire et ce qui est contingent. On confond l'essentiel et l'accidentel. Le propre de l'intelligence est de tout de suite saisir ce qu'il y a d'essentiel et de le mettre en pleine lumière. Oui. Intus legere, lire en profondeur. C'est une intelligence intuitive, une intelligence qui pénètre. Et puis il y a l'intelligence qui résonne. Elle a remis les choses en place, la méthode. Vous voyez, ça c'est l'efficacité de l'intelligence. C'est bien évident, c'est l'efficacité, c'est deux choses tout à fait différentes. C'est très rare que les deux se trouvent dans la même intelligence. Hein. Ordinairement, vous avez des intelligences intuitives qui résonnent peu, et des intelligences qui résonnent peu, beaucoup, et qui sont très peu intuitives. Mais ça, je me souviens que c'était au Solchoir, dans notre grand couvent d'études, nous avions chaque année les étudiants s'amusaient pour faire un guignol par rapport au professeur, pour maintenir l'humour. Alors il y avait un recteur que je ne nomme pas parce qu'il est encore vivant et qui avait très peu d'intuition. Alors tout le guignol était fait, le recteur a eu une intuition. En émerveillement, j'ai l'intuition, parce que quand il faisait commencer son cours, il disait, que voulez-vous, c'est juste pour sur l'Église, que voulez-vous, ce cours sur l'Église, mais il y a deux positions qui sont contraires, d'une part le Père Journet, d'autre part le Père Congar, alors je vais faire la synthèse des deux, vous voyez, vous voyez ce que ça voulait faire, la synthèse des deux, ça faisait un petit cocktail particulier, mais voilà, ça c'est la raison. La raison fait des synthèses comme ça, méthodologiques. Comme disait un professeur, une thèse, c'est de résumer 10 bouquins. Et si vous en résumez 100, ou alors là, meilleur note que vous pouvez avoir, oui, le cocktail, la méthode. Tandis que l'intuition, ah, elle va plus loin, elle découvre quelque chose de nouveau, elle remonte à la source. Vous voyez, c'est remonter à la source. Oui, vous pourriez dire ça, la source c'est la canalisation. Les robinets bien chauds et les robinets froids. Bon, alors, la douche froide, la douche chaude. C'est très très commun, c'est très très utile, ça c'est bien évident. Si on devait aller se doucher près de la source, maintenant on montrait à la source, tous les matins ce serait un peu plus difficile. Et puis ce ne serait sans doute pas douche froide, ce serait sans doute pas la chaleur, n'est-ce pas ? On n'aurait qu'une seule température. C'est l'avantage de la source, c'est qu'elle jaillit. La canalisation, c'est la raison, c'est la méthode. Et au fond, l'esprit humain, il faut bien saisir, l'esprit humain a les deux. Vous avez les deux registres. Du côté de la volonté, du côté affectif, et du côté intellectuel. C'est très très curieux. Vous avez les deux structures. Vous avez des structures affectives, rationnelles, d'efficacité. Alors c'est la structure d'efficacité. Et puis vous avez la structure d'amour, de pénétration dans l'ordre de l'amour par le point de vue de l'intelligence et cette capacité d'aimer. Oui, c'est ça que je voudrais que vous compreniez, parce que ça, là, je vous le donne, si vous voulez, comme à titre de réflexion, et je crois qu'on peut tous, du reste, comprendre ça, parce que nous sentons bien ça. Nous avons suffisamment de contact avec ceux qui sont autour de nous pour comprendre qu'il y a, de fait, autour de nous, des gens plus intuitifs et des gens qui raisonnent plus. Nous avons tous eu des maîtres intuitifs et des maîtres qui raisonnaient plus logiques, n'est-ce pas ? 1, 2, 3, 4, 5, c'est extraordinairement bien raisonné, mais dedans, il n'y a rien. Mais c'est bien, il y en a un, il y en a d'autres, au contraire, on se moins bien, mais il y a le contenu est dedans. Alors, il s'agit de deux. Et au fond, c'est tout le temps un peu comme ça, c'est normal, ça, c'est la vie humaine, parce que nous ne pouvons pas avoir une plénitude de tout. Alors, il y a une complémentarité des deux. Et l'esprit implique les deux. Mais alors, ce qui est terrible, c'est ça que je veux montrer maintenant, ce qui est terrible, c'est quand vous supprimez ça, Descartes, Freud. Alors, vous comprenez qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a ? Prima de l'efficacité, prima de la méthode. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien voir qu'aujourd'hui, c'est le primat de l'efficacité et le primat de la méthode. D'où ça vient ? Ça vient de Descartes, d'Octave. Oui. Parce que c'est un fait, quand on fait un peu l'histoire de la pensée, c'est un fait que les erreurs se propagent plus que la vérité. C'est très triste, mais c'est comme ça. C'est très curieux, ça. C'est extrêmement curieux. Combien la vérité, dans le domaine des hommes, est fragile. Et combien les erreurs, ça se propage très bien. C'est les ornières, vous savez. Alors ça reste. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de la vérité, il s'agit de redécouvrir chacun, voulez-vous. L'erreur, vous n'avez pas besoin de la redécouvrir. Vous pouvez la répéter. C'est l'immense avantage de l'erreur. Tandis que la vérité, vous devez la redécouvrir. Vous ne pouvez pas la répéter. Évidemment, on peut la répéter, mais ça ne se garde pas. Tandis que l'erreur, c'est suffit de la répéter. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans notre monde d'aujourd'hui, à partir du XIVe siècle, c'est vieux, vous comprenez bien. XIVe siècle est un siècle très très curieux, hein, au point de vue de l'histoire de la pensée, au point de vue théologique. À partir du XIVe siècle, il y a eu ce virage où, de fait, la volonté comme capacité d'aimer, l'intelligence comme perspicacité pour saisir la personne a disparu. Alors, primat de l'efficacité, primat de la raison, et donc primat des idéologies. Quand vous êtes au niveau de la méthode, primat de l'idéologie. Toute méthode dépend d'une idée. Et donc primat de l'idéologie. Et primat de l'efficacité. Bon. Il s'agit de remonter à la source, hein. C'est ça que nous voulons. Nous voulons remonter à la source. Nous voulons redécouvrir, parce que nous voyons bien que le primat d'efficacité et le primat des idéologies tuent l'homme. Ça tue l'esprit. Ça, c'est la mort de l'esprit. C'est absolument. Parce que c'est l'efficacité, on voit très bien ce que ça aboutit. Et puis le primat de la méthode, on voit bien, ça matérialise. Et alors l'esprit comme inhibé. Et vous ne voyez plus que le mode humain de penser, et vous ne comprenez plus cette capacité d'ouvrir Dieu. Alors c'est la mort de la contemplation, c'est la méditation, je vous disais hier, la méthode qui prend dessus. Et vous n'avez plus ce point de vue de ressourcement, de reprise, de contact direct avec la personne. Alors, vous voyez. Ceci, c'est pour essayer de comprendre l'effort que nous faisons. Je pars maintenant de l'expérience que nous avons tous fait, plus ou moins. Mais nous avons tous fait cette expérience de ce que représente l'amour d'amitié. Et je dis bien amour d'amitié, exprès. Je ne dis pas camaraderie, vous voyez. Il y a un livre, j'ai paru il y a quelque temps, il y a une vingtaine d'années, c'était amour et amitié. Alors on opposait les deux. En philosophie grecque, il y a Eros et puis Philia. N'est-ce pas ? Et vous pourriez ajouter Agapé. N'est-ce pas ? Alors vous auriez le fameux livre de Digrens, Eros, Philia, Agapé. Alors je n'entre pas dans cette discussion-là. Je veux simplement montrer ici Eros et Philia. Quand je prends Philia, je prends amour d'amitié et non pas camaraderie. Très différent. Eros, c'est l'amour d'une façon tout à fait générale. Et même, de fait, Eros est resté avant tout un amour instinctif. L'amour érotique, comme on dira aujourd'hui. Alors, l'amour érotique, c'est évident. Ce qui est terrible en français, c'est que le mot amour recouvre tout. Alors, évidemment, ça dépend des contextes. Quand vous parlez amour dans un certain contexte, on sait très bien ce que ça veut dire. Dans un autre contexte, on sait très bien ce que ça veut dire. Vous voyez, ça dépend, parce que c'est le même mot. Alors, vous êtes obligé de dire amour spirituel, mais quand vous dites amour spirituel, vous affadissez amour. On dit, ah oui, l'amour spirituel, c'est l'amour platonique. Mais ce n'est pas ça du tout, l'amour spirituel. C'est pour ça que je crois qu'il faut reprendre amour d'amitié. Pour bien montrer le réalisme de l'amour, et le côté spirituel de l'amour. Alors, nous allons partir de cette expérience, hein, et puis nous allons analyser philosophiquement ce que représente l'amour d'amitié. pour redécouvrir à la source ce premier amour. Et s'il nous reste du temps, à partir de là, on fera la philosophie de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Hier, on a vu l'amour passionnel. Je voudrais essayer de découvrir cela. Ricoeur disait, dans un de ses livres, « Il nous faudrait aujourd'hui faire une pneumatologie. »
Vous voyez, on voit très bien, à la manière de Ricoeur.
Pneumatologie. Pneuma, c'est l'amour, c'est le souffle. Et alors, une pneumatologie, c'est-à-dire une étude philosophique, métaphysique du pneuma. J'aime pas beaucoup, parce que, par définition, je vous l'ai dit hier, l'amour est au-delà de la connaissance. L'amour est au-delà du logos. Donc, je ne peux pas faire une pneumatologie. Il s'est mis le doigt dans l'œil en disant ça. Je ne peux pas faire une pneumatologie. Je peux essayer d'analyser l'amour dans ce qu'il a de plus profond pour saisir toute la richesse de l'amour, pour saisir le jaillissement de l'amour. Ça, je peux le faire. Mais je sais très bien que l'amour restera toujours quelque chose de fondamental, d'ineffable. Je ne peux pas définir. Je ne peux pas définir la vie, je ne peux pas définir l'amour. Alors, je pars de cette expérience, hein, chacun d'entre nous. Nous partons de l'expérience de l'amour d'amitié. Qu'est-ce qu'il y a de tout à fait caractéristique dans l'amour d'amitié? C'est que l'amour d'amitié porte sur la personne. C'est une personne. Il n'y a pas d'amour d'amitié au sens fort à l'égard d'un chien. Si fidèle que soit le chien. Si fidèle que soit le chien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réciprocité absolue. Le maître peut être fidèle et le chien peut être fidèle, mais c'est une réciprocité dans la fidélité, si vous voulez. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un amour d'amitié au sens absolu. Pourquoi? Parce que l'amour d'amitié porte sur une personne dans ce qu'elle a d'absolu. Dans ce sens-là, que l'amour d'amitié nous fait découvrir quelque chose d'absolu. Je ne peux pas dire à quelqu'un « je t'aime pour tel ou tel service ». Je t'aime tant que tu seras là pour m'aider. Après, je te laisserai tomber comme un vieux balai. C'est pas l'amour d'amitié, ça. C'est un amour utilitaire. Ça arrive souvent, ça, l'amour utilitaire. C'est l'amour entre fonctionnaires. Alors, je t'aime parce que tu fais bien ta fonction, c'est merveilleux, mais c'est pas l'amour d'amitié, ça. Et quand vous aimez un fonctionnaire, vous aimez quelqu'un qui vous aide. C'est très utile d'avoir ça, c'est très utile d'avoir sous la main un bon médecin, c'est très très bien, d'avoir un bon chirurgien, c'est très très bien, d'avoir à son service telle ou telle personne qui sont capables, mais ce n'est pas la personne. Le propre de l'amour d'amitié, c'est de porter sur la personne. On aime cette personne pour elle-même. On aime cette personne pour elle-même, c'est ça la très grande. C'est ça la grande chose de l'amour d'amitié. C'est qu'on aime cette personne pour elle-même. Je n'aime pas une personne à cause de ses beaux yeux. Ah, je t'aime, tu as des yeux admirables. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu des yeux comme ça. Des yeux comme... Ah, il suffit de te regarder pour que je tombe en pain poisson. C'est très bien, ça. Mais c'est pas ça l'amour d'amitié. Ça, c'est peut-être le coup de foudre. Mais ça, c'est l'amour passionnel. C'est très grand, du reste. C'est très beau. On est séduit. On est séduit par ce regard au milieu du brouillard de phare merveilleux et étonnant. Étonnant, alors je suis là complètement en arrêt, vous savez, comme le petit lapin en face de phare. Il ne sait plus comment. Là, il est en arrêt. C'est pas ça l'amour d'amitié. Ça, c'est un éveil d'amour. Regardez dans l'Écriture, parce que dans l'Écriture, il y a un passage où on montre ce que c'est que l'amour d'amitié. C'est Jacob en face de Rachel. C'est le seul endroit. Mais c'est beau de voir que dans l'Écriture, on est montré quand même un coup de foudre. C'est assez beau. Ça lui a coûté cher. Hein. Avant que le coup de foudre devienne une amitié, il a fallu que Léa passe devant. N'est-ce pas? Selon les mœurs du temps. C'est curieux. Mais c'est très beau pour voir comment cet amour d'amitié, ce coup de foudre devait mûrir. Pour devenir un véritable amour. Dans l'amour d'amitié, ce n'est plus à cause de telle ou telle qualité. Je n'aime pas quelqu'un à cause de son intelligence. Je n'aime pas quelqu'un à cause de ses beaux yeux.
Je n'aime pas quelqu'un à cause de, je sais pas, de telle ou telle qualité. J'aime la personne elle-même. C'est pour ça qu'au fond, c'est assez rare un amour de lui. Et pourtant, c'est ça qui devrait exister dans notre vie, puisque c'est à partir de l'amour d'amitié, comme nous le verrons, que nous découvrons la personne et que nous découvrons notre finalité. Tant qu'il n'y a pas eu d'amour d'amitié dans notre vie, nous ne savons pas très bien ce que c'est que notre finalité. C'est très important, l'amour d'amitié. C'est pas du tout vrai. Vous voyez, on considérerait souvent que l'amour d'amitié, c'est quelque chose de secondaire. On peut avoir des amis, oh, c'est très bien. Mais, au fond, c'est secondaire. Non, c'est pas secondaire. C'est essentiel à la vie humaine. C'est essentiel à la vie humaine. Évidemment, nous verrons demain qu'on peut dépasser l'amour d'amitié par la contemplation. Alors, où on est contemplatif et solitaire, ce qui n'exclut pas le reste d'amour d'amitié. Où on est dans l'amour d'amitié et on désire découvrir en profondeur ce que c'est que cet amour d'amitié. Alors, cet amour d'amitié, c'est donc aimer l'autre. C'est aimer l'autre pour lui-même. C'est d'aimer l'autre pour lui-même, comme mon bien. Et je veux dire, comme ma propre fin. J'aime l'autre pour lui-même. Alors, est-ce que c'est ça uniquement ? Attention. Distinguons bien encore. Vous voyez, premièrement, hein, première approche. Aimer la personne, aimer l'autre pour lui-même, comme un absolu, comme mon bien, comme ma femme. Quelle différence y a-t-il entre cet amour et la bienveillance ? J'ai de la bienveillance pour quelqu'un. Je l'aime beaucoup, je l'aime pour lui-même, je vois qu'il est dans un état difficile, je désire l'aider le plus que je peux. Alors j'ai de la bienveillance pour lui. La bienveillance, on dirait aujourd'hui, si vous voulez, dans un climat chrétien, un amour de miséricorde. Je veux être miséricordieux. J'aime ce pauvre homme, ce pauvre personne, elle n'arrive pas. Impossible pour elle de se dépatouiller toute seule, il faut l'aider, il faut la soutenir. Alors, je serai sa garde, je serai là pour l'aider, la soutenir. La miséricorde, la bienveillance, c'est très beau. Qu'est-ce qui est plus grand ? Cet amour à l'égard de la personne ou la bienveillance ? Parce que ça arrive. Hein. Je parle au point de vue humain, je ne parle pas au point de vue divin ici. Je parle au point de vue philosophique. La bienveillance est nécessaire à l'amour d'amitié. Mais elle n'est pas l'amour d'amitié. J'ai de la bienveillance pour des quantités de personnes qui peuvent avoir besoin de mon soutien, de mon aide. Mais ce n'est pas encore l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, c'est d'aimer la personne pour elle-même. La bienveillance, c'est lui faire des petits cadeaux, c'est l'aider, la soutenir, lui montrer qu'on est là, des petits signes d'attention. Vous voyez, c'est très très bien, ça aide. Ça donne un petit peu d'oxygène pour lui permettre de vivre. Mais ce n'est pas encore l'atteinte comme personne. Donc, il y a la bienveillance. Il y a cet amour qui atteint la personne. Mais l'amour d'amitié implique que celui qu'on aime nous aime. Voilà, troisième note. Vous voyez ? Je dirais que le sous-bassement d'amour d'amitié, c'est la bienveillance. Je dirais souvent comme ça, ça commence. Je suis attentif à quelqu'un, la bienveillance. Sauf quand il y a le coup de foudre. Hein. Alors, quand le coup de foudre, la bienveillance est télescopée. Je suis tellement frappé par cette personne que j'ai pas le temps de bienveillance. Mais souvent, il y a la bienveillance. Il y a la bienveillance, il y a la découverte de la personne, et puis il y a le troisième moment, cette personne que j'aime m'aime. Autrement dit, pour qu'il y ait amour d'amitié, il faut une réciprocité. C'est deux amours qui se croient. C'est pas seulement le petit lapin qui est séduit par les phares, mais c'est les autres phares qui rejoignent les autres phares. On est... Alors à ce moment-là, c'est l'amour d'amitié. C'est deux amours qui se croisent. De sorte que dans l'amour d'amitié, j'aime celui qui m'aime. J'aime celui qui m'aime. Et grâce au fait que je sais qu'il m'aime, il y a un épanouissement profond de mon amour.
voyez, tant que je ne sais pas qui m'aime, je suis dans un état de recherche. Alors il y a la fébrilité. C'est l'aspect un peu de désir, si vous voulez. Alors il y a la fébrilité, je ne sais pas. Je l'aime beaucoup, mais est-ce qu'il m'aime? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il fait attention à moi? J'ai l'impression que chaque fois que je suis là, il vite. Non, je me dis, on voit très très bien toutes ces petites inquiétudes. Le jour où je sais que celui que j'aime m'aime et qu'il m'aime pour moi-même, dans mon propre absolu, comme une personne, alors à ce moment-là, ces deux amours se croisent. Et ces deux amours se croisant, il y a une profondeur dans l'amour toute nouvelle. C'est très curieux. Au fond, c'est là où on saisit la fragilité de l'amour. La fragilité dans le sens de la délicatesse, si vous voulez, de l'amour. C'est qu'un amour ne peut s'épanouir que quand le bien qu'il aime vient vers lui. Oui. Quand le bien est trop transcendant, j'ai soif, je désire. Mais l'amour ne peut pas s'épanouir pleinement, c'est le désir. Quand le bien est transcendant, oui, c'est-à-dire quand il ne vient pas vers moi. Une personne que j'aime, je la considère comme mon bien. Je la considère donc toujours comme l'autre. Et l'autre est toujours un peu transcendant. Oui, transcendant dans le sens ce qui me dépasse. Hein. Ce qui me dépasse, ce que je ne peux pas atteindre pleinement. Donc toujours, le bien est toujours un peu transcendant. Il me dépasse. Alors, ce bien qui me dépasse, j'ai un amour pour lui. Mais comme il est lointain, je le désire. C'est l'élément élan dans l'amour qui domine. Je monte vers lui, j'attire vers lui. C'est très bien d'être attiré. C'est très très bien d'être attiré vers le bien. Mais quand je suis attiré vers le bien, je peux quelquefois aussi être un peu poussif. Hein. J'ai de la peine de l'atteindre. Il m'atteint, il est tellement grand, il est tellement éloigné de moi. Est tellement supérieur à moi que l'élément élan, désir domine. Quand cette personne qui est mon bien m'aime, elle vient vers moi. Alors elle est toute proche. Et parce qu'elle est toute proche, mon amour peut s'épanouir parfaitement et totalement. Alors à ce moment-là, l'amour l'emporte sur le désir, sur l'élan. Il y a comme un repos dans l'amour. Et l'amour peut être parfaitement lui-même. C'est très curieux, ça. Au fond, l'amour ne peut être parfaitement lui-même, l'amour spirituel, ne peut être parfaitement lui-même que lorsqu'il rencontre une personne qu'il aime, qui m'aime. Donc, quand il y a réciprocité. Tant qu'il n'y a pas réciprocité, l'amour reste inquiet et ne peut pas s'épanouir pleinement et totalement. Je crois que c'est cela qui caractérise l'amour d'amitié. C'est aimer l'autre pour lui-même et savoir que l'autre m'aime. Alors, précisons encore un peu, quelques petits points, parce que c'est intéressant à voir ça. Cet amour d'amitié ne se fait pas d'un seul coup. Le coup de foudre, ça, c'est la passion. C'est très curieux. La passion, elle est instantanée. Tandis que l'amour d'amitié, il y a quelque chose d'instantané, c'est très vrai. Ce premier amour à l'égard d'une personne, c'est pas commandé. Il y a des personnes auxquelles on s'accroche tout de suite, c'est pas pourquoi. Mais faisons attention, il y a des personnes qui au point de départ, on n'a aucun accrochage, et puis petit à petit, quand on arrive à les connaître, on se dit, ah tiens, je m'étais laissé prendre par des choses extérieures et maintenant je découvre ce qu'il y a de profond en elle. Et en découvrant ce qu'il y a de profond, j'avais jugé de l'extérieur. On a toujours un danger de juger de l'extérieur, c'est bien évident, quand on ne connaît pas. Et on n'a pas le droit de juger de l'extérieur. Et pour découvrir la personne, il faut aller beaucoup plus loin que cela. Alors voyez, l'amour d'amitié n'est pas du tout lié à la passion. La passion, c'est le côté extérieur. Et du côté passionnel, c'est les fameux atomes, les atomes crochus que les philosophes ont inventés. Parce qu'il n'y en a pas. Mais il y a des sympathies et des antipathies. Ça, c'est très très vrai. Il y a des sympathies et des antipathies. Il y a des sensibilités qui s'accordent tout de suite et des sensibilités qui sont un peu en état de répulsion. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas du reste inquiétant. Le tout, c'est de savoir dépasser les sympathies et les antipathies. Ne pas en être dupe. Savoir qu'on a une sensibilité qui est comme ça, bon, il y a d'autres sensibilités qui sont différentes. La sensibilité de l'homme et de la femme sont différentes à ce point de vue-là. Ordinairement, pas toujours. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont... Mais normalement, la sensibilité de la femme et la sensibilité de l'homme sont différentes. Le point de vue volontaire est le même du côté de la femme et du côté de l'homme. N'allez pas me dire qu'il y a une volonté féminine, une volonté masculine. Non, non, non. Tandis que je dis qu'il y a une passion féminine et une passion masculine. Alors ça, c'est très vrai. L'homme n'est pas passionné comme la femme. Alors, c'est intéressant de voir, quand on a vu hier les passions, quelles sont les passions viriles et les passions féminines. Ce serait très intéressant de voir ça. Quelles sont les passions dominantes chez l'homme, quelles sont les passions dominantes chez la femme. Et là, on verrait le point de vue psychologique de l'homme et de la femme. Mais quand il s'agit de l'esprit, je ne veux pas dire qu'il y a un esprit de la femme et l'esprit de l'homme, non. Je crois qu'au point de vue de l'esprit, il y a une... substantiellement, c'est le même. Et donc, au point de vue de la volonté, c'est le même. Même si les accrochages sont différents au point de départ, on arrive petit à petit à se connaître dans la volonté. Et cet amour volontaire, cet amour qui fait que je regarde l'autre pour lui-même, cet amour spirituel dépasse l'aspect passionnel qui existe toujours, mais qui demande d'être dépassé, et qui, dans la mesure où il est dépassé, ne fait que conditionner, ne détermine plus.